La grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'épingle, le podcast. Avec Greg, Pag et Jean-Max. Le podcast sur la course automobile. Une présentation de la Commission athlétique.
Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode post-Grand Prix d'Azerbaïdjan.
Il y en a des syllabes.
On va dire Bakou à Blas. Ouais. Bon, le plus simple. Et avant de commencer cet épisode, nous sommes en duo cette semaine, Fred et moi-même. On doit bien sûr rendre à tout seigneur tout honneur. On vous invite et on vous rappelle que si vous cherchez un camion, le meilleur endroit, c'est Payet. Vous préférez un Dodge, un Jeep, un Ram, un GMC ou un Chevrolet, c'est maintenant possible sur Payet, P-A-I-L-L-E.ca. Messieurs, OK. Payet. Vous n'avez pas entendu les doux chants de Jean-Max, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, notre cher Jean-Max. Il a une nouvelle job, lui aussi. Tout comme Pag, qui, vous savez, a quitté malheureusement le podcast. Mais Jean-Max a une nouvelle job et lui, c'est une job temps plein puis pas à peu près. Parce qu'il est papa. Alors, Jean-Max, on t'aime et on est très heureux de cette merveilleuse nouvelle. C'est pour ça qu'on est en studio, moi et Fred, ensemble cette semaine pour résumer toute l'action du Grand Prix. Mais on tient également à remercier Best Buy, le fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio, de la commission athlétique, ainsi que le complexe JC Perrault pour tous les meubles dans lesquels on est assis présentement et sur lesquels on met notre iPad et notre verre d'eau. Vous pouvez encourager l'OBNL du complexe JC Perrault qui supporte la persévérance scolaire, très important, chez les jeunes en louant une des deux glaces à Saint-Roch-de-la-Chigan. Et cette fois-ci, on n'a pas de chanson à faire, mon cher Fred Vallée, pour les commandites de Best Buy et de JC Perrault. Comment ça va, mon chum?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Tu as un week-end occupé, toi. Tu n'as non pas suivi un ni deux, mais bien trois Grands Prix.
Oui, trois Grands Prix. Grand Prix cycliste de Québec, Grand Prix cycliste de Montréal, puis aussi quand même là, garder un œil sur ce qui se passait à Bakou en fin de semaine.
Ouais. Tout un week-end. Ouais. C'est le fun d'avoir ça. Je sais qu'on est des fans de Formule 1, mais tu es un grand cycliste. Tu es grand, mais tu es un grand fan de cyclisme également. Tu pratiques énormément ce sport-là, puis d'avoir le meilleur au monde qui est... C'est pas pire, hein? On a eu le Grand Prix au mois de juin. Mm-hmm. Là, on a eu Tadej Pogacar, le roi Tadej qui était ici avec nos meilleurs cyclistes. Puis dans pas long, ça va être les meilleurs golfeurs au monde qui vont être là, dont le meilleur en ce moment, Scottie Scheffler.
C'est des belles vitrines pour le Québec, c'est sûr. Là. J'avais des amis qui regardaient ça en Europe, puis ça fait quand même des belles images de Québec et de Montréal. Puis c'est ça d'avoir tous les pros qui étaient là en fin de semaine ici. On est assez choyés.
Mm. Certainement. Et on a eu toute une course qui n'a pas été... C'est pas Lando Norris qui s'est démarqué en fin de semaine. On reviendra là-dessus. Un week-end, je vais dire, énigmatique. Oscar Piastri, d'abord. Puis avant de commencer à vous dire pourquoi je pense que c'est énigmatique, vous allez voir, ça sera notre trame tout au long de l'épisode. Je vous le dis tout de suite. D'abord, Oscar Piastri, là, pour utiliser une vieille expression dans les médias montréalais, y est-tu bon, lui?
Oui, je suis d'accord. Il a son move au tour 20. De juste prendre Leclerc quand il a décidé de pas trop défendre, de sauver ses pneus un peu, puis en se disant qu'à l'heure, on a plus tard. Piastri voit l'occasion, la saisit.
En 18 mois, as-tu réagi comme moi dans ce dépassement-là, en ce sens où on pensait qu'il l'a dépassé, puis on se disait ça va faire comme en début de course, où est-ce qu'il a quand même brûlé ses premiers pneus assez rapidement, puis ça a fait que Charles a pu se détacher de lui. Mm-hmm. On s'est dit, bon, ça revient encore, puis Charles a une meilleure gestion de ses pneus, puis il va pouvoir revenir plus loin. Moi, au début, on dirait que j'y croyais pas. Puis finalement, à la fin, ben non, c'est Oscar qui avait raison.
Avec une trentaine de tours à faire encore, il restait encore du pain sur la planche quand même, là, parce que c'était vraiment pas fini à ce moment-là. Puis on a tellement été habitués cette saison-ci, puis les précédentes, j'ai l'impression d'avoir un dépassement. Après ça, un pilote qui s'échappe, puis qui gère sa course in clean air, comme on dit. Puis là, c'est resté serré jusqu'à la toute fin. Puis on sentait toujours que Leclerc cherchait une petite erreur de sa part pour repasser. Mais Piastri qui a été de glace, puis qui continue à faire tour sur tour, pas d'erreur, continue à bien protéger. Puis il n'y avait rien à dire sur sa performance ce week-end-là.
À quel point il t'impressionne? après 18 mois, là, tu sais.
Non, c'est sûr que je pense que c'est un gars qui a une mentalité un peu comme les peut-être les pilotes finlandais là, qu'on a vu dans les dernières années, qu'il est laser focus, puis tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui l'impressionne trop ou qui va trop le stresser, puis lui, il est là, il fait son travail. Puis c'est ça, là, on sent que les émotions sont... garde ça in check là, pendant la course puis qu'il réussit à vraiment bien gérer par ça. Fait que c'est sûr que c'est super impressionnant.
Ouais. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que j'ai failli envoyer un petit tweet hier en disant « Il y a un nouveau Iceman. » C'était mon Kimi Raikkonen il y a quelques années et maintenant, c'est Oscar Piastri qui lit ce qu'il démontre. On en a parlé à la dernière course, là, son dépassement presque vertigineux sur Lando Norris. Ouais. Et là, un dépassement qui était fait dans les règles de l'art, qui a été bien fait. Il avait une excellente voiture, mais sa gestion, il semble jamais... Même quand son ingénieur, il parle, ce qu'on nous diffuse là, dans les médias, on pourrait suivre toute la radio avec lui, avec F1 TV, mais il a jamais l'air à paniquer. Il a tout le temps l'air en contrôle. Honnêtement, là, c'est tout un coup de McLaren, je pense, d'avoir été chercher ce qu'il y a.
Ouais, c'est dur de nommer un pilote que tu n'entends pas à radio au moins une fois par course, un peu à fleur de peau. Là, ou
mettons
pas à fleur
Charles
de peau. Là,
comme
mais
ça,
Charles
beaucoup,
qui disait, c'est ça, de le laisser tranquille. Ou Max aussi, qu'on a vu souvent se plaindre assez sérieusement sur la radio aussi. Puis, tu vois Piastri qui est assez. C'est une de ses forces probablement. Là, puis c'est ça qui fait qu'on va continuer de le voir gagner, je pense, dans les prochains week-ends. Puis dans la prochaine année, certains. Là.
Ça donne. McLaren sont maintenant premiers, mènent le championnat des constructeurs pour la première fois en 10 ans. C'est quand même pas rien comme accomplissement. Zach Brown a l'air super heureux de ça, avec raison. Et ça a fait réagir un homme que tu connais bien, Helmut Marko, qui a dit « Ouais, on a déjà oublié le championnat des constructeurs, nous autres, chez Red Bull. » Maintenant, est-ce que c'est...
J'irais pas dire que je connais bien Helmut Marko quand même. Là.
Tu le connais mieux que moi.
Non, ouais, OK, je l'ai croisé, mettons. Là. Mais ouais, là, je pense que c'est... À toute fin pratique, c'est fini. Là. On est à course 14 ou 15?
On est à la course 16, parce que c'est le 16e épisode. Non, attends une minute. On est à l'épisode 16, mais c'est la 15e course, je crois, du calendrier. Attends une minute, là, moi, les chiffres là, puis ces affaires-là, là, tu peux continuer ton...
Ouais, mais
on est d'épisode 17 en plus,
17,
mais sauf
que,
Hugo...
Il reste peu de temps pour ramener de la performance sur l'auto. Là. Je connais quand même un peu les lead times pour développer quelque chose, avoir de quoi qu'on va aller dans ce fleuri, puis après ça, d'amener ça sur la piste. Puis pour toutes les équipes en ce moment, là, ça va être peut-être un gros package qui peut encore s'en venir d'ici la fin de la saison, mais ça va être difficile pour toutes les équipes de ramener quelque chose, à moins qu'il y avait... déjà quelque chose en préparation là, qui va changer la donne, je pense. Là. Fait que les tendances devraient se maintenir. Puis là, ça va être de voir si Red Bull est capable de rester devant Ferrari aussi jusqu'à la fin de la saison.
Ben oui, parce que Ferrari s'approche dangereusement. Puis ils ont connu un petit passage à vide, mais là, c'est deux courses sur des circuits très différents. Monza, le temple de la vitesse, et Baku, qui est un circuit routier, urbain, beaucoup plus lent également. Qu'on se démarque et qu'on fait très bien aussi. Là, on aurait fait un double podium en fin de semaine si ça n'avait pas été de cet accrochage.
Cet accrochage,
on va parler tantôt.
Non, c'est ce qui serait arrivé. Puis ça commence à converger au sommet quand même. Là. Puis tu sais, là, on dit que oui, Red Bull a perdu du momentum, là, mais on regarde le. J'étais allé chercher le race pace en fin de semaine. Là, puis. C'est le entre Piastri, Sainz, Perez et Leclerc, on parle de 3 centièmes de seconde sur le tour moyen en fin de semaine. Fait que c'est assez serré au sommet. Puis là, Mercedes qui semblait moins être dans le mix en fin de semaine, mais qui l'a été sur d'autres Grands Prix aussi. Là, fait que parce qu'on va continuer d'avoir du bon divertissement jusqu'à la fin de la saison, c'est sûr. Là.
Mercedes qui avait comme le vent dans les voiles avant la pause estivale. Et là, on semble avoir de la misère. On semblait être très heureux. On avait gagné 3 courses. Ouais. On a gagné la dernière course avant de partir à la pause estivale. Lewis semblait super heureux. Semble vraiment malheureux depuis son retour et la voiture qui n'est pas tant présente là, non plus. Là.
Et Lewis et George, en fin de semaine, comme ont eu des petits complaints sur les pneus. Lewis, là, on voyait que c'était comme le réchauffement en qualification qui est comme un... de la misère à amener les pneus dans la bonne fenêtre de performance.
Depuis le début de la saison.
Oui, je ne sais pas si c'est un problème qui peut leur être unique ou si ça dépend d'un circuit à l'autre. Là. C'est sûr que dépendamment des virages, puis c'est des virages plus rapides ou plus lents, ou ton tour de réchauffement avant un tour en quali va être super important. Puis là, tu vois que George réussit à faire quelque chose que Lewis ne réussit pas à faire. Mais là, après ça, même post-course, tu vois que George, entre les médiums puis entre la gomme dure après, disait que c'était le jour et la nuit. Puis que quand le fuel load a descendu aussi, la performance avait complètement changé. Fait qu'il y a comme un... Je sais pas, ils semblent avoir une variabilité sur leur performance en ce moment qui ont de la misère à expliquer, mais c'est pas quelque chose qui leur a été unique. Puis ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ils ne vont pas revenir et avoir une meilleure course non plus, je pense.
Comment tu es capable de... Tu sais, toi, tu es ingénieur, tu as travaillé là-dedans. Tu travailles là-dedans. Comment on est capable d'expliquer qu'il y a autant de variations d'un circuit à l'autre? On se dit, OK, Mercedes sont revenus. Mm-hmm. On est présents. Ça faisait une couple de courses qu'on dominait. On parlait même si Lewis avait regretté de s'en aller chez Ferrari. Mm-hmm. Là... depuis la pause estivale, c'est complètement le contraire. Ouais. Ferrari sont revenus de l'avant. La Mercedes, depuis plusieurs années, est excessivement capricieuse. Donc, va nous montrer des très bonnes performances, va arriver avec des performances assez moyennes. Mm-hmm. Comment on explique ça?
Ouais, c'est sûr que le plus gros truc qui va différencier les équipes, ça reste l'aérodynamique. C'est toujours, c'est le truc que les équipes vont investir le plus, toujours, ouais. Parce que c'est là que tu as le plus de lap time à aller gagner. Puis c'est là que tu peux le plus te différencier par rapport aux autres. Après ça, il y a tout ce qui est mécanique qui va te donner de la grippe aussi niveau mécanique et suspension. Puis qui est comme, tu sais, ce que tu vas aller chercher comme stiffness à l'avant, à l'arrière. Puis ça, c'est aussi pour permettre aux pilotes de se sentir à l'aise avec l'auto. Après ça, c'est sûr que là, le groupe moteur est important aussi, mais là, on semble avoir de quoi qui est assez level en toutes les équipes puis en tous les différents fournisseurs. Mais là, c'est sûr que l'aérodynamique fait une énorme différence. Puis c'est ça qui, au final, pour une auto qui va être setup pareil, va donner la confiance aux pilotes aussi à aller pousser l'auto au maximum. Là. Puis tu vois que on essaie toujours d'aller chercher des caractéristiques aérodynamiques quand tu développes la voiture, qui sont comment le ballon change dans un virage, comment l'auto elle va être à des low ride height qu'on dit, ou à plus haut, avec le pitch avant-arrière aussi de la voiture, puis après ça du road. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de jeu, puis de tout avoir parfaitement au même moment, c'est difficile. Fait que une variabilité comme ça, c'est presque normal, là, j'ai envie de dire, parce que il y a énormément de facteurs qu'il faut qu'ils soient parfaitement alignés au même moment à travers différentes équipes, puis après ça, il faut que quelqu'un soit capable de prendre ça, puis de... l'équipe sur la piste soit capable de tout utiliser ce package-là puis d'amener la performance au maximum avec ça. Là.
Je te lance une question. Mm-hmm. Puis c'est même pas du Lewis Hamilton qui est là-dedans.
Ouais.
C'est Mercedes comme équipe.
Mm-hmm.
Est-ce que pour toi, là, quand on voit présentement ce qu'on a comme règle, puis on se disait la domination de Red Bull n'aura pas de fin, là, mm-hmm. parce que on était tellement dominants en 2021, 2022, 2023 et en début 2024 également. Là, on voit que on l'échappe un peu présentement, puis que c'est McLaren qui commence cette domination-là. Est-ce que pour toi, ça met encore plus de poids sur la domination que Mercedes a eue pendant 8 ans, dans lequel on était presque intouchable, autant avec Nico qu'avec Lewis, qu'avec Valtteri également, avec ces trois-là?
J'ai peut-être un peu moins suivi là, à cette époque-là, je vais t'avouer, par exemple, là, mais je pense qu'il y a une grosse partie de sa performance-là à ce moment-là qui était liée au moteur aussi quand même. Là, alors qu'en ce moment, ce qui semble différencier les équipes, ça va être beaucoup plus au niveau aérodynamique et au niveau du setup suspension pour donner de la confiance aux pilotes. Là. Ben, moi, j'ai de la misère un peu à me prononcer sur cette ère-là un peu après ces règles-là.
Non, mais c'est de voir qu'un écurie remporte des championnats des constructeurs après championnat des constructeurs. Bottas, dois-tu trouver le temps long en ce moment?
Ça n'a aucun sens, ça. C'est... Et j'en parlais avec un de mes chums en fin de semaine. Tu regardes la performance de Sauber d'un week-end à l'autre. Ils s'en vont absolument nulle part. C'est absolument
terrible.
Quand
tu vois Williams qui progresse, tu as deux pilotes dans les points en fin de semaine. Dépasse Alpine d'ailleurs dans le championnat des constructeurs. Ouais. Et là,
je pense qu'il y a du leadership chez Williams qui a vraiment pas chez Sauber en ce moment. C'est ça la différence. Là.
L'événement Truck en Stock fait son entrée chez Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram. Plus de 375 modèles en stock. Avec Paillé Chrysler Dodge Jeep Ram, vous avez les meilleures offres et plus de choix. L'événement Truck en Stock, c'est ben des trucks maintenant. OK, paillé.
Puis il y a une volonté de gagner ou puis de remonter qui est pas mal plus présente.
C'est quoi l'objectif? Je veux dire, est-ce qu'on est en train de faire perdre la valeur à cette écurie-là avant qu'Audi arrive? Est-ce qu'Audi va avoir l'air des héros? J'ai de la misère à m'expliquer. Là.
Ah, c'est dur à voir. Il semble avoir un manque de vouloir un peu quand même. Là.
C'est la seule équipe avec aucun point. Ouais. Alpine a 13, Williams 16, Haas 29, ARB en a 34, V-Carb. Aston Martin qui est comme sur son île à elle seule. Ouais. On en reparlera d'Aston Martin d'ailleurs. Mm-hmm. Et après, tu as Mercedes puis la course dont tu mentionnais. Là. McLaren est à 4,76. Ouais. Red Bull 4,56. Ferrari 425. Okay. On est très, très proche. Ouais. Ça veut dire qu'à Singapour, probablement que Ferrari pourrait dépasser Red Bull. On a tellement de questions à jaser. Là. Commençons par celle-ci. Je veux qu'on parle de McLaren, du fameux aileron arrière. Mais d'abord, il n'y a pas si longtemps, là, on disait que Max pourrait gagner des courses avec une Williams. En fin de semaine, c'était pas une grande performance de Max Verstappen. Non. Je veux dire que Sergio Perez a l'air du héros comme ça. Toi qui étais dans la boîte il n'y a pas si longtemps que ça, tu peux pas te dire qu'il y a une amélioration du côté du garage de Sergio Perez puis que Max Verstappen, il y a eu tant que ça. Ou est-ce que c'est un peu comme ce qu'on a vu chez Mercedes où est-ce que Lewis testait des trucs sur la voiture puis George performait en 2022 notamment, ça a été le cas. Est-ce que c'est un peu ça? On est où là-dedans?
Ah ben, en fin de semaine, je vois... On sait que Checo à Baku, historiquement, a été meilleur que Max quand même. T'sais, l'an passé, puis l'autre d'avant aussi. Puis c'est un pilote qui performe bien sur ce circuit-là en particulier puis les street circuits. Fait qu'il y a ça en partant. Puis j'ai l'impression que Max, en fin de semaine, a peut-être essayé, avec ses ingénieurs, peut-être de pousser un petit peu plus certains trucs sur le setup pour justement aller essayer de fermer ce gap-là de performance. Puis là, hier, sur la course, c'est un 3/10 qu'il y a de différence de race pace entre Checo et Max. Ça fait que c'est quand même vraiment pas négligeable pour la même voiture. Puis Max, c'est plein d'avoir l'axe arrière qui levait un peu, d'avoir les pneus qui glissaient. Fait que tu vois peut-être qu'on a réduit la suspension un peu trop à l'arrière pour essayer d'aller chercher un brin plus de performance. Puis des fois, tu passes ton point d'optimum, mais une fois que tu as réglé l'auto puis que samedi c'est parc fermé, tu ne les touches plus, ben, tu es pris avec ça pour la course ensuite. Là. Fait qu'il y avait ça. Mm. C'est plein aussi d'un manque de bite sur l'entrée de virage. Fait que tu sais, il y a différentes décisions qui ont peut-être été prises.
Je pense, ouais, samedi
puis,
matin,
après
déjà.
Ça, c'en est replein sur la radio dimanche aussi. Là. Fait que tu sais, on a peut-être poussé un petit peu trop pour essayer d'aller chercher de la performance. Puis là, c'est là que tu vois que une fois qu'une équipe est sous pression comme ça, puis là, tu essaies de peut-être aller chercher un peu plus que la zone de confort dans laquelle Red Bull opérait avant quand tu domines, que tu peux probablement compromettre un peu ton setup pour que le pilote soit plus à l'aise parce que tu sais justement que ta performance aérodynamique puis ce que tu as comme voiture va être plus rapide de base de toute façon. Fait que tu y vas pour de quoi que Max va être super heureux à piloter. Puis là, en fin de semaine, probablement, on essaie de pousser un peu plus puis d'aller encore plus à la limite de l'enveloppe de performance de l'auto. Puis là, peut-être qu'on a été un step trop loin.
Est-ce que ça devient un peu une faiblesse de Max à ce moment-là? Moi, tu sais, j'ai l'impression que dans son mindset, peut-être que déjà dans sa tête, gagner le championnat des pilotes, où il est un peu fâché, ce qui enlève un petit peu de son... comment je peux dire, ça y enlève rien de sa superbe et son talent, là, parce que je sais que quand on parle et qu'on attaque Max, là, je vais manger des tapes sur les médias sociaux et ça ne me tente pas, mais c'est un pilote formidable. Il a fait des miracles avec cette voiture-là, mais là, je ne sais pas, j'ai l'impression que ces miracles-là arrivent à court, puis je vois pas comment ça peut venir du talent du pilote. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. On dirait que c'est comme, est-ce qu'il essaye d'autres trucs, il envoie un message à son équipe, ou c'est simplement qu'il est victime du fait, comme tu dis, qu'il veut avoir le setting pour lui amener la meilleure performance possible, puis que finalement, ça y joue des tours.
Ouais. Bah, ouais, je pense que c'est plus ça. Là, que c'est, on sait que notre performance purement aéro, là, tu mets les autos, les deux dans la soufflerie, mettons exactement le même setup, on va peut-être avoir de quoi qui avantage McLaren en ce moment. Fait que là, on va chercher... sur les autres trucs qui peuvent nous différencier, justement, qu'il y ait des setups de suspension qui vont peut-être être plus agressifs ou est-ce que les caractéristiques de l'auto vont être peut-être plus difficiles à piloter ou tu vas avoir de quoi d'un peu plus tough. Puis là, je pense juste qu'en fin de semaine, particulièrement, peut-être que ça a été un petit step de trop, mais en même temps, ça va être time will tell. Là. On va voir le reste de la saison, qu'est-ce qui va se passer, puis voir si Red Bull continue de pouvoir améliorer l'auto aussi puis de mieux comprendre un peu ses caractéristiques-là puis de donner à Max encore cette confiance-là avec l'auto puis cette performance-là pour qu'il puisse continuer de se retourner à l'avant puis fight for the win.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle d'avoir vu ces performances-là de Checo Perez en fin de semaine. Malheureusement, ça ne se traduit pas dans le championnat des constructeurs et des pilotes à cause de cet accrochage. Es-tu content de voir Checo revenir?
Oui, honnêtement, c'était quand même cool de le voir en fin de semaine puis d'être dans le mix à l'avant. Puis tu sais, oui, je ne sais pas s'il n'était pas sorti justement des puits un petit peu avant Norris puis s'était pas fait retenir, s'il aurait pris le lead au moins pour un moment, j'ai l'impression. Puis ouais, c'est assez cool quand même de voir que après quand même un solide dip, là, c'était vraiment pas fameux. Il était loin, loin de Max des derniers Grands Prix. Puis là, de voir qu'il est capable quand même de
il était rebondir un peu. Là. On peut pas dire qu'il
était
terrible
du tout. Les deux dernières courses après le break, j'espère qu'il va continuer sur cette trajectoire-là parce que le championnat des constructeurs semble... Bon, c'est fini à toute fin pratique avec McLaren, probablement, mais en même temps...
Nous autres, on a oublié ça.
Ouais, c'est ça. Terminé. Si Checo et Max peuvent être dans le top 5-6 régulièrement, puis que Ferrari continue peut-être d'avoir des up-down, ben, peut sauver la deuxième place au moins après si t'as deux pilotes qui performent. Là. Fait que, non, c'était bien à voir. J'étais un peu déçu pour lui, honnêtement, à la fin, quand il y a eu l'accrochage avec Sainz quand même. Là. Ouais.
Cet accrochage-là. J'ai fait un petit sondage sur ma plateforme X, là, demander c'est-tu la faute de Checo, est-ce que c'est la faute de Carlos? On a mis ça sur un incident de course, un racing incident.
Un bon incident.
Je trouve que l'incident de course a le dos large un peu.
Ouais.
Avant de me donner mon analyse, je l'ai regardé. Là, regardé.
Moi aussi, je l'ai rechecké pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi quand
là,
même.
Là, on-board de Saints, la caméra de Checo également et la reprise aérienne aussi, plan par plan. J'ai hâte d'avoir ton analyse avant de te dire la mienne.
Tu veux que je me lance avant toi?
Tu veux que j'y aille?
Oui, vas-y donc. OK, parfait. Je vais essayer de...
C'est bon, c'est ça de bord déjà. Je trouve ça fantastique.
Je vais te laisser te prononcer.
Carlos n'a pas tourné sa voiture.
Non.
Carlos est resté tout droit et tu vois vraiment la roue avant droite de Checo venir s'insérer, arriver devant la roue de Carlos. Ce qui a, c'était à partir de ce moment-là, tu le vois même là, sur la caméra de Carlos Sainz, garde le volant droit, puis à un moment donné, la voiture arrive à 45 degrés complètement, puis les deux rentrent dans le mur. Alors, est-ce que c'est un incident de course? Tu sais, qui aurait pu être évité si, à mon avis, Checo avait pris complètement, avait assumé son dépassement au lieu de tenter de rester aussi près de Carlos, que je m'explique mal parce qu'il avait en masse de place à ce moment-là. Donc, je vais donner légèrement la faute à Checo dans cet incident-là.
Ouais, quand t'es le gars derrière, puis que, tu sais, Sainz suivait le slipstream, tu sais, suivait la traînée de Charles, là, qui est comme un léger mouvement vers la gauche pour aller prendre le virage suivant. Checo est là. Sainz aurait pu, t'sais, peut le voir dans son miroir aussi, mais à ce moment-là, Checo avait la place pour se tasser quand même. Mais à vitesse à laquelle c'est arrivé, tu vois que les deux pilotes sont assez neutres sur le steering input aussi. Fait que c'est quand même dur de mettre le blâme sur l'un sur l'autre. Là. C'est un incident qui est un peu bête quand même au final, là, parce que ça aurait pu être évité, je pense, de part et d'autre. Là. Il y avait en masse de place pour que les deux soient côte à côte. Puis,
Carlos est devant, il va pas se tasser. Tu parlais de l'aspiration de Charles. Il va pas se tasser pour dire oh mon Dieu, Checo est là. Je veux dire,
il y a fait un move comme un peu erratique non plus de se tasser sur un ou sur l'autre. Là, c'était quand même assez bête comme truc. Puis ouais, mais en même temps, Checo, tu vois qu'il y avait de la place pour se tasser aussi. Là. Mais je vais pas faire porter le chapeau à personne, je pense, là-dessus. Là. Un mauvais incident, puis. J'espère que Checo va continuer d'avoir un peu de forme de même dans les prochains Grands Prix.
Un 52-48, peut-être.
Peut y aller avec ça, là. C'est bon. Je vais te le laisser.
Non, mais c'est pas de blâmer Checo.
Si j'avais été derrière de même, tu sais, je suis pas pilote, là, mais tu voyais quand même qu'il allait suivre Charles, fait que tu te dis, ouais, il faudrait bouger.
Je me disais, à un moment donné, tu vois son pneu qui arrive devant le pneu. C'est sûr qu'il va arriver de quoi, là, à un moment donné.
C'est tellement arrivé tranquillement, en plus, là, c'est comme assez...
Sais-tu, et là, moi, je suis pas ingénieur. Tu sais, je veux dire, je me...
Je suis pas ingénieur non plus, là, faut arrêter de dire ça, je vais me faire pogner par l'ordre, là. Okay. Je suis étudiant en génie mécanique, là, fait que...
Un étudiant en génie mécanique, pardon. Futur
ingénieur, ça peut passer, ouais, c'est bon.
Futur ingénieur, mais... T'sais, stagiaire en Formule 1, est-ce que ça peut être dans l'air justement qui arrive, est-ce qu'il peut avoir des aspirations qui se font que malgré le fait que tu tiens le volant droit, ça c'est quelque chose que je ne connais pas là, dans ce domaine-là.
Ah, c'est extrêmement complexe là, le flow field autour d'une Formule 1 comme ça, puis je pense pas que ça peut être dû à l'aérodynamique, ce genre de truc-là. C'est vraiment les pneus du moment qui se touchent un peu, t'as une force de friction qui se fait, puis ça... Ça part, là, t'as vu comme une fois que les pneus se sont à peine accrochés, puis tournent pas dans la. Ouais, c'est ça. Qui tournent les uns sur l'autre. Là, c'est fini après. Là, je pense pas que ça a rien à voir avec l'aéro quand même. Là.
Je voulais juste. Si moi je me pose la question, oh, ouais, j'imagine qu'il y a plusieurs de nos auditeurs auditrices qui se le posent. Donc,
j'aurais de la misère à dire que c'est le cas. Là.
Je me devais de sortir ça de nos hypothèses. Bon. Quand Red Bull dominait, on sait, là, il y a eu ce jeu-là. Des fameuses questions sur les ailerons flexibles, les flexi-wings, dans lesquels on a installé des espèces de petits marqueurs, des caméras pour voir à quel point ça bouge. Là, et Ferrari et Red Bull ont envoyé la FIA chez McLaren pour voir qu'est-ce qui se passait avec l'aileron. Toi, qui as un très bon intérêt envers ça, puis une expertise aussi, t'es penché là-dessus pour voir ce qui se passait. La FIA a dit que les ailerons de chez McLaren étaient complètement légaux, qu'il n'y avait pas de problème.
Mais là, on parlait d'ailerons avant, à ce moment-là.
Excuse-moi,
là, c'est
l'aileron
ça.
Avant.
Ouais. Puis là, c'est en fin de semaine, ce qui est ressorti.
C'est l'aileron arrière.
C'est l'aileron arrière.
Mais bref, les deux ailerons. Ouais, parce que les deux bougent avec...
avec la force aéro qui va venir.
Le fameux flexi-wing, le concept s'applique aux ailerons avant-arrière. Puis ça a sorti, il y a eu plusieurs photos, même des vidéos là, qu'on voit, parce que là, il y a des caméras partout sur Formule 1. Ça a levé des certaines questions. Puis toi, tu m'as texté en fin de semaine, tu as dit, il faut absolument qu'on parle de ça.
Oui, bien là, on parlait beaucoup de flexi-wing d'aile avant, récemment, que tu sais, c'est juste une... Puis ça a toujours été le cas là, des régulations en ce moment, où est-ce que tu vois qu'il y a comme une petite plaque abrasive vers le milieu de l'aile avant, que tu vois le dernier flap qui peut monter puis qui peut descendre sur le straight. Ça, c'est de quoi qui est prévu par les règles. Puis il y a des limites, puis il y a des tests statiques que la FIA va faire sur les ailes avant pour être sûr qu'il n'y a pas une déflexion avec juste un poids accroché dessus qui est plus grande que X millimètres, mettons.
C'est ça.
Ça, je pense que ça a été réglé à toute fin pratique là, parce que je pense que Ferrari puis Red Bull n'étaient pas d'accord avec ce que Mercedes puis McLaren avaient.
Exact.
Mais ils passent tous les tests au niveau de l'aile avant. Là, ce qui était intéressant en fin de semaine, puis ce qui a été noté sur le taux de Piastri, puis qui a quand même pu faire une différence dans le résultat de la course, c'est que, puis là, je vous invite à aller voir sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, là, il y a eu quelques clips qui sont sortis, qu'on voit un shot de l'aileron arrière de Piastri sur les lignes droites, puis on voit le flap de DRS qui vient à s'ouvrir un petit peu, puis on voit à la jonction, là, sur la fin du flap, que le flap sauve une petite affaire au bout du virage. Fait que, c'est dur de quantifier. En fait, c'est impossible de quantifier c'est quoi l'avantage en kilomètre-heure que ça peut lui donner. Mais moi, je regarde ça, puis j'en ai vu des chiffres de DRS ouverts, fermés. Puis tu vois que ce petit truc-là, ça peut donner un 1, 2, 3 km/h de plus de top speed avec le DRS fermé. Fait que tu vois Charles, à chaque tour, qui va essayer de remonter, puis qui va essayer de passer, puis qu'il manque une petite affaire pour dive in, puis essayer de faire le move. Puis le flap de Piastri qui ouvre au maximum de cette ouverture-là, ça va être au bout de la ligne droite où est-ce qu'il va avoir sa vitesse maximale, qu'on dirait que c'est comme si l'aile était faite d'une façon qu'il y a beaucoup de stiffness dans le milieu, puis après ça, le flap va ouvrir un peu sur le côté.
Même on voyait les sorties de virage de Piastri, rapide. Il allait chercher des centièmes de seconde sur Charles, puis c'est probablement grâce à ça que Charles... Tu sais, à un moment donné, Charles l'a dit sur la radio, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ces gars-là poussent en fou actuellement. Puis c'est ça qui nous a donné peut-être un peu l'impression que il n'allait pas se rendre jusqu'à la fin avec les pneumatiques.
Mais bon, pour revenir à l'aileron, là, pas de DRS, le top speed de Piastri en fin de semaine, 320 km/h. Tu avais Charles, quand il n'avait pas son DRS ouvert, 319, et Checo était à 317. Fait que DRS fermé, McLaren était l'auto la plus rapide en fin de semaine. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est pas dû à ça? Moi, je peux pas te le dire sans voir la simulation, les chiffres sur l'auto. Mais je vous invite quand même à aller voir cette photo-là du gap qui s'ouvre. Puis je suis allé chercher le print-out des règles à FIA parce que je les ai lus en masse dans la dernière année pour être sûr que ce qu'on faisait puis ce qu'on développait, ça avait bien de l'allure. Mais tu sais, c'est écrit que si le piston venait à plus fonctionner, qu'il ouvre puis qu'il ferme le DRS, il faudrait que le flap soit dans la position où est-ce qu'il est à l'angle d'attaque maximum. Fait que c'est la position qui est verticale. Puis que la seule altération de l'angle d'attaque de ce flap-là qui peut être faite, ben c'est avec le piston, c'est avec rien d'autre. Puis ça peut juste être fait dans les zones de DRS. Fait que... on est dans une zone quand même grise en ce moment avec McLaren. Si c'est quelque chose qui est fait et qui est prémédité, ou si c'est quelque chose qui a pu fail. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça cette semaine parce que on va en entendre parler certainement parce que Ferrari, Red Bull, Mercedes,
on n'a pas entendu parler encore. Si on a vu ça sur les médias sociaux, pour l'aileron avant, là, ce qu'on a entendu, puis même quand c'était le cas chez Red Bull, vous vous êtes fait attaquer par tous les autres en parlant des fameux ailerons qui bougeaient. Mm-hmm. T'sais, lorsque Red Bull était au top dans les dernières années, mais je suis surpris qu'il n'y a pas encore des équipes qui en aient parlé. T'sais, Helmut Marko aurait été le premier, par exemple. Là, à moins que j'allais manquer, ça se peut, là, mais j'ai pas vu personne. Est-ce que c'est parce que les autres équipes, là, c'est une question, un concept que je lance, mais on veut-tu pas lever de questions par rapport à ça parce que nous aussi, on prépare des ailerons qui sont semblables ou.
C'est
très politique.
Ouais, mais tu regardes comment l'aileron ouvrait, puis ça avait été fait vraiment on purpose chez McLaren. Ça prend quand même du temps pour designer un truc de ce type-là qui va permettre de juste flexer un peu sur le coin puis d'ouvrir. Fait que, tu sais, protester, ça coûte pas cher, là. Fait que cette semaine, il va peut-être avoir quelques courriels qui vont s'envoyer des équipes à la FIA, j'ai l'impression, parce que ça coûte zéro rond, là. Après ça, développer une aile qui va faire la même affaire pour le petit avantage que tu vas aller chercher, on va prendre un peu plus de temps. Fait que là, c'est sûr que je pense que la première étape partout cette semaine, ça va être de regarder ça, essayer de quantifier un peu l'espèce d'avantage que ça peut amener. Puis moi, j'étais Fred Vasseur aujourd'hui. Je prendrais le téléphone puis je ferais un petit appel pour voir qu'est-ce qu'on en pense quand même à la FIA, là.
Ouais, Fred Vasseur, Christian Horner, Toto, tout le monde va sauter là-dessus, c'est sûr. Mais habituellement, tu sais, quand on est capable de le voir directement après la course, quand il y a des plaintes qui arrivent. Puis là, je me dis, écoute, il y a Fred qui nous en parle ici. Puis là, moi, je n'entends pas, j'ai pas vu. Puis je fais mon tour d'actualité à peu près partout avant qu'on enregistre. Puis on n'a rien vu à date. Donc,
on fera un check-up lundi prochain après Singapour, voir si
ça sort quelque chose. Le fun, ce Grand Prix-là,
ça va être bon,
Ça va être très, très bon. Mm-hmm. Ferrari, là, est-ce que... Tu sais, Fred Vasseur était très prometteur avant la pause estivale en disant, bon, inquiétons-nous pas, on va être de retour. Est-ce qu'on est là pour vrai maintenant? On a vu Sainte très rapide, Charles qui... Tu sais, Charles s'est fait avoir, je pense que Piastri est l'homme à battre présentement, là, au moment où on se parle.
Ouais, je pense que on a parlé un peu des upgrades au dernier podcast qu'on a amené à Monza, puis c'était dur d'évaluer un peu l'effet. Mais là, en fin de semaine, on voit une voiture qui est performante. Charles qui avait du trouble en début de week-end en pratique, mais on semble avoir réglé quelque chose de mécanique sur la voiture, puis après ça, ça s'est bien passé. C'est pas vraiment de gros complaints des pilotes aussi sur la radio en fin de semaine durant le Grand Prix. Fait que non, on est dans un bon spot, on dirait, chez Ferrari en ce moment, là. Puis après deux courses en plus avec le nouveau package, là, fait que... Ça semble aller dans la bonne direction, là.
Es-tu comme moi? Je pense juste à 2025.
Ça va être probablement une continuité de ce qui s'est passé un peu cette année, mais là, on va partir avec les équipes qui vont être coude à coude directement. Là, ça va être, d'un point de vue de fan, ça va être incroyable, je pense.
T'sais, on n'aura pas de... Là, Max devrait remporter le championnat des pilotes. Ouais. À moins qu'il abandonne à Singapour, admettons, puis Lando l'emporte, ou que Lando continue de creuser l'écart, puis un ou deux abandons. T'sais, on souhaite jamais ça non plus, là. Mais en même temps, t'sais, pas sûr que Max a envie de remporter un championnat des pilotes en ayant gagné au début de la saison, puis là, ça fait trois mois que t'es pas monté sur un podium, ce qui n'est pas arrivé depuis belle lurette. Donc, on verra ce qui va arriver de sa fin de la saison, mais l'an prochain, de voir quatre équipes qui pourraient solidement gagné, championnat des constructeurs et championnat des pilotes aussi, avec Lewis chez Ferrari également. Wow, j'ai hâte de voir ça.
Ouais, non, ça va être assez solide, là, parce que les régulations ne changent pas encore, c'est stable. Tout le monde va arriver avec une évolution de ce qu'on peut faire sur le break d'hiver, mais ça va être encore assez coude à coude dès le départ de la saison. Fait que non, ça devrait être une année assez excitante l'an prochain, c'est sûr.
On a d'autres sujets à parler.
Ouais.
Il y a bien des sujets à parler. Je t'avais pas mis ça dans notre liste, mais ça me fait penser, tu sais, l'an prochain chez Mercedes, Kimi Antonelli s'en vient, jeune pilote. Puis là, des fois, on se dit, ça va prendre une grosse période d'adaptation. Mais moi, quand je vois ce que, par exemple, Ollie Bearman est en train de faire, qui a été le premier pilote de l'histoire à marquer des points dans ses deux premières courses dans deux voitures différentes. Ouais. Et Franco Colapinto, qui a été très, très bon. D'ailleurs, as-tu vu son message des médias sociaux?
Oui, j'ai vu là avec Lewis.
Son meilleur moment. C'était Lewis qui ne se rappelait plus de son nom. Après, c'était super drôle.
Ah, c'est cool, oui.
De voir leur adaptation. Colapinto, qui est déjà pas mal plus... Là, on a vraiment une idée de Williams est rendu quand on voit. Et on comprend maintenant peut-être un peu mieux, suite aux performances de Colapinto, pourquoi Carlos Sainz s'est rendu là-bas aussi.
Ouais, ben, Sainte, je pense qu'il commençait à manquer d'options aussi à ce moment-là. Fait que,
parce qu'il a allé, pris trop de temps.
Il a pris notamment. Du temps avant de se décider. Mais ça semble pas être... On semble être dans le midfield, peut-être dans le haut du midfield en ce moment. Puis si ça continue dans la même direction, ça devrait être bien. Puis non, ça va être... Puis ouais, pour revenir sur ton point sur les recrues en ce moment, puis ce qu'on voit d'eux, la période d'adaptation est assez courte, là. Colapinto qui a bien fait une semaine, Berman aussi, puis on va voir l'an prochain avec Antonelli aussi, là. Ça va être assez intéressant.
Ah, c'est difficile de dire, t'arrives, puis déjà là, on te donne le siège dans une des quatre meilleures écuries.
Ouais.
Mais tu sais, Antonelli, s'il est capable d'exprimer le talent qu'on lui porte actuellement...
Capable d'avoir une attitude un peu plus peut-être à la Piastri, un peu plus cool, puis pas d'aller un peu trop fort sur son deuxième tour en pratique, mettons, par contre. Là, mais après ça...
Il
va falloir qu'il soit un peu plus chill. Là,
ouais, on rappelle les faits, là, à Monza, FP1... Ça en va sortir des tours presque une seconde plus rapide qu'à peu près tout le monde. On se dit, oh wow, et son deuxième tour dans le mur terminé sa session. Mais tu sais, si ça a pu être peut-être un petit indice de l'étendue de son talent, magique.
Ouais.
Et j'ai hâte de voir ça l'an prochain.
Ouais.
Mais Colapinto, t'es en train de se magasiner. D'après moi, là.
Je sais pas où est-ce qu'il pourrait se retrouver, là. Mais
t'es Sauber ou t'es, t'es V-Carb, je pense que c'est réglé. Ouais. Là. On le saura d'ici. Singapour, selon moi, qui sera dans la voiture l'an prochain. Mais est-ce que tu passes un coup de téléphone? Je veux dire, il est dans le programme chez Williams, mais tes deux sièges chez Williams sont réglés pour un bout, là.
Ouais, mais lui, il est dans une bonne situation. Il est dans une situation où il n'y a rien à perdre. Puis, tu sais, il a tout approuvé. Puis en ce moment, en fin de semaine, puis l'autre d'avant, il a livré quand même la marchandise. Puis s'il continue à le faire, ben il va remonter sur la liste des autres écuries, c'est sûr. Là.
Certainement. Il faut parler d'Aston Martin maintenant.
Ouais.
Un autre week-end catastrophique pour Lance Stroll.
Ouais, OK. Aston, en général, Alonso quand même bien réchappé, mais Lance Stroll...
Alonso, écoute, je pense que Alonso tire ce qu'il peut de cette voiture-là. Là, on n'en parle pas depuis quelques courses.
Il est dans un no man's land, on dirait, à chaque course. Où est-ce que
ça doit être frustrant pour lui.
Ça doit être assez terrible.
De ne pas voir de progression sur la voiture présentement. Mais là, Adrian Newey arrive.
Ouais.
On se demandait si on l'engageait comme ingénieur. Finalement, il va avoir pas mal un plus gros rôle que ça. Ouais. Et ça ne peut pas faire autrement que de donner de l'espoir à tout le monde.
Ouais. Mais ça va donner de l'espoir pour 2026. Moi, j'ai l'impression que Adrian Newey va... En tout cas, à moins qu'il y ait une idée de génie sur les régulations en ce moment, là, les améliorations qui sont faites sur les autos sont assez... c'est assez comme des petits trucs sur des coins de l'auto précis, puis ça prend quelqu'un qui a les deux mains dans ce coin-là pour aller faire une amélioration, j'ai l'impression. Adrian Newey va travailler sur les nouvelles régulations probablement pour 2026. Fait que, tu sais, va falloir qu'Alonso regarde un an plus loin probablement encore, puis qu'il soit prêt à accepter que 2025, ça va ressembler à cette année probablement pour Aston, j'ai l'impression. Là.
Mais lui, il est là pour quand même... plusieurs années.
Normalement.
C'est pas une jeune fleur du printemps.
Non, mais...
Mais il tire encore des performances de la voiture. Mm-hmm. Il est là, il est présent. Et je pense que dans l'éventualité où il peut aider à développer la voiture aussi, j'ai beaucoup aimé la réaction de Christian Horner qui a dit « Il me doit encore une voiture qui n'est pas finie.
» Ouais.
Mais on a encore questionné Helmut Marko. Pensez jamais parler autant d'Helmut Marko de lui dans cet épisode-là. Mais Helmut qui dit oui, effectivement, là, toutes les pièces sont en place pour que éventuellement Max en aille chez Aston Martin.
Oui, puis on a des nouvelles usines chez Aston, le wind tunnel qui n'est pas encore commissioned, je pense, mais là, qui va être là pour 2026. Là, tu vas chercher le designer qui a eu le plus de succès pour venir faire ton concept général pour les nouvelles régulations. Puis il a eu du succès à faire ça là, dans toute sa carrière. Fait que ouais, on a réuni des ingrédients, puis Papa Stroll a mis le paquet pour aller chercher tout ce qu'il pouvait pour...
J'ai l'impression qu'un Lawrence Stroll passe pour Darth Vader là, depuis son arrivée en Formule 1, mais est-ce que, tu veux dire, n'importe quelle écurie, là, enlevons Ferrari, Mercedes, Red Bull puis McLaren, par exemple, est-ce que n'importe quelle écurie ne rêve pas d'avoir un propriétaire comme lui qui arrive, a donné un volant à son fils...
Ouais.
En même temps, tu sais, je veux dire, Lance, quand il était chez Williams, a démontré des très belles choses aussi.
Ouais.
Et il y a toujours un il ne serait pas là sans aucun talent. Mm-hmm. Il a connu des bons moments aussi, pas pire cette saison. Mais l'argent, l'investissement nécessaire pour... Puis on a eu des doutes également là, sur Aston Martin.
L'événement Troc en Stock est de retour uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Plus de 1450 modèles en stock. Pour les meilleures offres, GM Payé, c'est le plus grand centre du camion au Canada. L'événement Troc en Stock, c'est bien des trocs maintenant. OK, OK, Payé, Payé.
Récemment, on disait, est-ce qu'il veut peut-être vendre un peu? Mm-hmm. Mais non, comment encore?
Continue d'aller de l'avant. Je pense qu'ils ont signé deux autres gros partenariats aussi, justement, parce que le salaire de Newey, il faut le payer aussi, là. Oui. Puis les installations qui sont nouvelles. Puis après ça, c'est sûr que là, sont pris aussi dans le 150 millions de pounds pour le budget cap, là, plus ou moins. Là. Mais après, c'est ça, tes plus hauts salariés sont en dehors de ça, puis tes pilotes aussi. Fait que là, Lawrence Stroll qui va chercher tout ce qu'il peut en dehors du budget cap pour que l'équipe ait du succès. Là. C'est quand même assez... on voit qu'il y a du commitment. Là.
Avant que tu arrives dans le podcast, on disait qu'en début de saison, Aston Martin était peut-être le projet le plus sexy en Formule 1 présentement. Mm-hmm. Le Williams a peut-être pris un petit peu de galon. Ouais. Haas aussi est intéressant.
Ouais.
Mais crois-tu que c'est le cas?
Je pense que ça reste encore l'endroit où est-ce qu'il y a eu des gros investissements récemment en dehors des 3-4 frontrunners qui sont assez établis. Aston, c'est assez... il devrait, à un certain moment, prendre une courbe de progression un peu plus rapide comme on l'a vu chez McLaren parce que là, en tout cas, s'il n'y a pas de retour sur investissement, sinon ils vont avoir... avoir des questions à se poser parce qu'il y a eu, des gros moves qui se sont faits. Puis c'est encore un projet qui est assez hot. Ils
ne garagent pas de l'argent par les fenêtres non plus.
Ils ne devraient pas, là. Ça demande un certain accountability.
As-tu d'autres points que tu voulais couvrir sur Azerbaïdjan? C'est drôle, hein, par exemple, à quel point les pilotes, puis avant que tu arrives là-dessus, ça vient de me revenir, le vendredi, puis même le samedi en début de journée, à quel point on se plaint de ce circuit-là qu'on a absolument aucune adhérence. Puis il faut vraiment rouler dessus pour que... Puis on voyait
l'évolution en qualité.
L'évolution de la piste était... C'était vertigineux de voir ça. Là.
Mm-hmm. Alors, c'était assez intéressant de voir ça, c'est sûr. Là. Mais sinon, pas... deux autres points intéressants, là, je dirais, pour le week-end, là, c'était le pace de Norris sur son dernier stint. Là.
On n'a même il pas était, parlé de lui.
Quelle remontée quand même. Là. Ouais, il n'y a pas...
Il a sauvé les meubles. Je pensais jamais qu'il aurait pu terminer devant Max.
C'est quand même un statement.
Avoir su qu'il ferait tout ce chemin-là, je l'aurais pris dans mon pot de F1. Parce qu'on est payé, nous autres, sur les dépassements aussi. Fait que quand
de 15 à 4.
Ouais. 15 à 4. Et Max qui termine 5e. Mm-hmm. T'allais chercher le tour le plus rapide aussi. Alors, son pace qui était extrêmement impressionnant.
J'ai les courbes, là, c'est ça. Puis dans son dernier stint... il était une à deux secondes plus rapide que la moyenne des 3-4 frontrunners là, sur la fin de la course. Fait que après avoir pité, là, c'était head down, puis vraiment été assez solide, puis faisait tour sur tour sur tour assez rapide. Là. Puis George Russell qui a fait quelque chose de similaire à la fin aussi, qui a réussi à reprendre du pace sur son dernier stint, mais pas avec le même
Lando pourrait quasiment... Il pourrait quasiment commencer le Grand Prix de Singapour encore avec ses pneumatiques.
ça pourrait être bon.
Et tu sais, moi, ça me fait de la peine un peu quand je vois les comparaisons de dire « Lando a gagné deux courses en 5 ans et Oscar a gagné deux courses en 18 mois. » Tu sais, là, on parle... Là,
on
Oscar
a une voiture gagnante depuis Miami chez McLaren. Exact, fait que c'est pas une comparaison qui est juste...
Lando a tellement donné à cette écurie-là.
Ouais.
Depuis, tu sais, il s'est commis, il aurait pu aller chez Red Bull, il aurait pu changer de volant.
Ouais.
Il s'est commis à cette écurie-là pour gagner avec eux. Puis là, on le fait passer un peu pour le mauvais garçon.
Ouais.
Tu sais, puis il y a une autre affaire aussi. Je me ferai pas d'amis en disant ça, mais c'est pas grave parce que c'est un fait pareil. Tu sais, on dit, on demande à Oscar de l'aider. Puis là, avant le début du week-end, Oscar dit, regarde, si je dois aider Lando, je vais l'aider.
Ouais.
C'était la bonne chose à faire, je pense, pour Oscar également, qui est comme l'homme de l'heure dans la F1 en ce moment. Mm-hmm. Là, on dit, hey, si Lando a besoin de l'aide de son coéquipier, il mérite pas d'avoir un championnat du monde. Je m'excuse un instant.
Ouais.
Regardons dans l'histoire là, les pilotes qui ont eu l'aide d'un coéquipier pour remporter des championnats du monde, là. J'en connais, je peux t'en dire un là, rapidement qui n'a pas eu d'aide de son coéquipier pour remporter un championnat du monde. Là. C'est Nico Rosberg.
Ouais, c'est ça que j'allais dire.
Tu sais, je veux dire, à part ça, là, tous les autres ou à peu près, mm-hmm. et Max, non seulement ça, mais en 2021, il n'y a pas Sancheco, eu l'aide d'un coéquipier. Il y a eu l'aide de deux écuries au complet avec deux autres coéquipiers qui étaient là également. Faisons attention un peu avant d'affirmer ça. Là. Ça fait partie des règles d'équipe. C'est pour ça que tu vas avoir deux bons pilotes.
Oh, ouais.
Tu sais, qu'est-ce qu'on dit au début de la saison? Max, il n'y a pas de Checo pour l'aider. Ben, exactement.
Mais c'était le move à faire chez McLaren aussi d'un point de vue médiatique, d'arriver avec ce message-là, je pense aussi quand même. Là. Ben, mais ça a été ça. Aussi au niveau de faire des points là, puis d'avoir quelque chose de clair. Là, parce que ce qui est arrivé à Monza, c'est qu'ils ont échappé la victoire là, au final là, à cause de... Parce qu'ils n'ont pas eu ces team orders-là. Là. Peut-être que Charles aurait gagné quand même avec sa gestion des pneus à la fin, là, mais c'était le bon chemin à prendre, je pense. Là. Puis les deux ont eu l'air assez fair play aussi, là, Norris puis Piastri.
Norris, il l'a aidé,
ouais.
qui l'a beaucoup aidé. Oui,
qui l'a beaucoup aidé en retenant Checo. Ouais. Puis après
Checo
aussi.
Vraiment pas content.
Ouais. Puis tu vois Norris qui était heureux pour Piastri aussi à la fin. Puis que, tu sais, ça. Non, il semble avoir une meilleure cohésion qu'après Monza quand même chez McLaren. Là. Peut-être que c'est juste de surface, là, mais
je pense que ça s'est bien
réchappé quand même, alors que ça aurait pu partir dans une direction différente, j'ai l'impression. Là.
Ben, tu sais, tu veux pas cette guerre-là.
Non.
T'sais, Nico Rosberg a pris sa retraite après cette saison-là en disant ça m'a tout enlevé. Mm-hmm. J'ai tout donné pour aller chercher ça. Et pour avoir lu un livre sur ce qui s'est passé chez McLaren entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Tu ne veux pas avoir ce type non plus de trucs-là qui arrivent dans une écurie. Ça affecte tout le monde. Ça affecte, et à long terme aussi, je veux dire, le moral des troupes, tu ne veux pas ça. Et c'était la bonne chose à faire pour Oscar aussi, pour paraître pour le bon gars qui va être là pour aider également. Des fois, à tête froide, d'avoir des conversations. Probablement que Mark Webber s'est mêlé de ces conversations-là aussi. Mais les informations qui sont sorties, comme quoi dans son contrat, Oscar Piastri aurait une clause dans laquelle ça a été négocié par Mark Webber, justement en disant je suis pas le deuxième pilote. Mm-hmm. Là, si je peux aider Lando si je veux. Mais là, on l'a pas mal convaincu qu'il fallait qu'il veuille l'aider aussi. Ah
mm-hmm. Oh, ouais, c'est un sport d'équipe à un certain niveau quand même. Hein.
Maintenant, le segment le plus intéressant de la semaine, qui nous est présenté par CarGurus. Vous pouvez vous rendre sur CarGurus, CARGURUS. Pour obtenir, trouver, c'est-à-dire la bonne voiture au bon prix grâce à notre vaste sélection d'évaluations et d'avis impartiaux sur tous les concessionnaires. Commencez votre recherche, je l'ai dit, sur cargurus.ca. Ton pire pilote du week-end.
Je vais dire que c'est Lewis, mon pire pilote du week-end quand même. Ouais. Ben, nulle part encore, tu sais, un peu dans un genre de no man's land, finit par se battre avec Haas puis avec Williams pour prendre des places sur la piste. Je sais pas, là, j'ai comme l'impression qu'il a un peu quand même sous-performé ce week-end, puis c'est dur de voir. C'est OK, on aurait pu retourner avec Stroll encore en fin de semaine, qui décide d'arrêter en ayant un problème de frein, là, mais je trouve que Lewis, en fin de semaine, quand même un petit peu sous la barre. Ouais.
J'aime ça que tu me dises ça, parce que ces deux pilotes-là, puis là, je mets pas Lewis Hamilton et Lance Stroll dans la même phrase, mais me semblent pas heureux de leur situation.
Non.
Même si Lance aurait signé. On a eu des discussions au Grand Prix de Montréal, notamment avec Frédéric Ferret, journaliste français, qui nous disait « Lance me semble vraiment pas heureux en Formule 1. Il a de l'air à être là juste pour... c'est un travail qu'il s'en vient faire. Il n'a pas de l'air motivé. Mm-hmm. » On a vu quelques bons trucs en fin de semaine. Pas en fin de semaine, c'est-à-dire cette saison de sa part. Tu sais. Mais là, complètement, en fin de semaine, une autre erreur. Bon, avec Yuki, ce qui est arrivé... J'ai l'impression que ces deux-là s'accrochent à tous les courses.
Oui, c'est vrai, hein, ça arrive assez fréquemment.
On dirait que ces deux-là sont tout le temps en train de se trouver
sur la piste. Entre la V-Carb et la Aston. Ouais.
Ce qui a mis fin à la course de Yuki. Lance, il n'y avait pas de place. Là.
Non.
Il ne pouvait pas rentrer là. Si j'ai blâmé Esteban Ocon à Monaco d'avoir fait ça sur Gasly, c'est à peu près l'équivalent qui est arrivé avec Lance Stroll. Et là, bon, problème de frein au 50e tour. Ouais. Un petit peu difficile à expliquer celle-là, mais Lewis non plus. On le voit dans ses entrevues. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans le je ne veux pas dire summer break, là, dans la pause estivale. Voilà, j'ai dit les deux. j'ai de la misère à comprendre. À Monza, a dit, je pense que j'ai oublié comment qualifier.
Ouais.
Là, en fin de semaine, parlait de la température de ses pneus. Il ne voulait pas lancer. Mais qu'est-ce qui se passe?
On va avoir un peu moins le couteau entre les dents. Je sais pas, là. C'est,
Ben, j'ai l'impression... Comment? C'est vraiment bizarre. Mm-hmm. Et là, je suis pas en train de mettre en... Parce que là, on m'a niaisé bien gros sur le fameux courriel qui était sorti dans quelque part sur Toto Wolff et tout ça. Là. Mais j'ai l'impression que quand Lewis va prendre sa retraite puis qu'il va écrire un livre sur sa carrière, on va en apprendre sur ce qui s'est passé à sa dernière saison chez Mercedes. Je sais pas ce qui se passe présentement, mais ça me semble être très, très inégal.
Ouais.
Et peut-être que c'est pour ça que c'était aussi émotif, sa victoire à Silverstone, il n'y a pas si longtemps que ça. Bref. Mais je suis d'accord avec toi.
C'est quoi ta réponse, toi, ton pire pilote du week-end?
C'est dur parce qu'il y en a, jamais... y en a pas mal qui n'ont pas été forts.
Qui n'ont pas livré.
Mais, tu sais quoi, je vais être d'accord avec toi.
Ouais.
À un moment donné, George a battu Lewis à pilote couture.
Ouais.
Lewis n'a pas été présent. Est-ce que c'est des facteurs extérieurs? Mais quand on voit ça et qu'on n'a pas de réponse, tu as donné des réponses pour Max. Selon moi, il y a peut-être le même type de réponse pour Lewis, mais autant je suis un fan de Lewis, je l'aime, en fin de semaine, tu sais, c'est pas Lewis qu'on a connu.
C'est ça, versus son standard, mettons, là, on peut dire que c'est assez
réel. Il viendrait pas me dire que Lewis est fini.
C'est pas
ça du tout, je dirais jamais ça. Et ton meilleur?
Ouais, ben je vais dire la même que la semaine passée, c'est Oscar Piastri, mon meilleur pilote encore.
L'impérial Oscar Piastri.
J'aime son attitude. Je trouve que dès qu'il a vu qu'il avait la chance de passer devant Leclerc, il s'est pas dit « Ah, je vais attendre, je vais être conservateur. » Il est allé direct, puis après ça, sa gestion jusqu'à la fin de la course, pas de slip-up, pas d'erreur, il a pas coupé de chicane, il a pas tapé le mur un peu jamais non plus. Puis, ça a ramené ça jusqu'à la fin, moi... Très belle performance.
La fameuse chorégraphie entre les deux
qui glissent. Là.
Virage, le dérapage contrôlé, c'était vraiment quelque chose. Mm-hmm. De 15 à 4, et avec les temps que tu nous as donnés, je pense que je n'ai pas le choix d'y aller avec Lando.
Mm-hmm.
Qui a, tu sais, s'il devait sauver ça d'une certaine façon, là, moi, je l'ai dit lors de sa qualification, 17e, est-ce qu'il vient d'échapper le championnat-là? Tu sais, un temps soit peu, là, tu finissais hors des points, c'était... Terminé,
mathématiquement fini. Là,
tu ne peux pas laisser Max te prendre des points dans une course comme ça. Et finalement, il a réussi à finir devant lui. On ne peut pas lui blâmer. T'sais, je veux dire, il a quasiment fini sur le podium. Il est à 5 secondes de George. Et oui, il y a un accident, mais ça fait partie de la Formule 1. Là.
Autant il a bien roulé, par contre, dimanche. Je trouve quand même samedi, il faut qu'il prenne une partie du blâme d'avoir pas sorti de la Q1.
Effectivement.
Parce que Je pense qu'il a fait deux tours dimanche, avant. Ça rebalance, c'est vrai.
Samedi. Mm-hmm. Mais samedi, oui, tu as eu le drapeau jaune.
Ouais. Mais tu as eu deux chances avant d'en faire un bon tour qui aurait pu te sortir.
Est-ce que si le blâme est à lui ou le blâme est à l'équipe de ne pas l'avoir sorti plus tôt pour en avoir fait un? Tu es quand même en. Hey, t'as pas besoin en Q1
d'attendre aussi longtemps
quand ta voiture la plus performante. Alors,
grosse malchance quand même, j'y enlève pas. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu d'autres pilotes qui sont passés en Q2 juste avec leur premier ou deuxième tour. Puis lui, ça a vraiment été au dernier. Fait que tu sais, il y a quand même une partie du blâme qui est à lui. Là. Ouais.
Fred Vallée,
ouais.
Notre premier podcast en duo, ça a été un pur délice qui a passé très, très vite. On espère que vous avez eu autant de fun d'écouter et de regarder ça que nous autres, on en a eu de le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve tous la semaine prochaine. Ouais. Un très, très beau Grand Prix qui s'en vient, celui de Singapour, un circuit que j'apprécie beaucoup. Fans de Formule 1, bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Faites bien attention à vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner à notre Instagram, nos affaires. Réagissez, envoyez-nous des commentaires, que ce soit constructif, positif, peu importe. On est bien content d'échanger avec vous autres tout le temps. Bonne semaine tout le monde. Salut.
Bonne semaine. Ciao.